Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Est-ce que tu as mangé ? De manière générale, lorsqu'on vous pose cette question, on vous la pose pour s'assurer effectivement que vous ne passiez pas votre journée à jeun quand vous n'êtes pas en jeûne. Je crois que c'est régulièrement qu'on demande aux personnes qu'on aime, qu'on côtoie, ah, est-ce que tu as mangé de la journée ou qu'est-ce que tu as mangé ? Une question qui paraît banale, simple, ne l'est pas dans le contexte de cette histoire. Quand Dieu demande à Adam, est-ce que tu as mangé ? C'est parce que le discours d'Adam a changé. D'ailleurs, Adam s'est déplacé. Adam révèle à Dieu qu'il sait maintenant qu'il est nu. Adam a toujours été nu, mais ce jour-là, après avoir mangé, Adam réalise ce que seul Dieu savait à son sujet. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as mangé ? Je veux poursuivre la série dans laquelle nous nous sommes engagés avec vous depuis plus d'un mois maintenant. Nous parlons de réussir en temps difficile. Est-ce que tu as mangé ? C'est un bon thème. Alors, ceux qui prennent des notes, est-ce que tu as mangé ? Réussir en temps difficile. Je veux relire le texte qui, de mon point de vue, est un bon texte pour exprimer la pensée des temps dans lesquels nous sommes. 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et l'apôtre Paul termine cette liste en donnant une la cause de vos maux vous donne une recommandation médicale. Si c'était une alimentation à changer, certains d'entre nous, le médecin a dit, évite les aliments trop salés, évite la cuisine pimentée. Dans ta façon de manger, mange plus de légumes. Arrête. Évite la viande, tout ce qui a de la graisse. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça veut dire qu'il y a des gens que vous ne pourrez pas changer. Mais si vous restez à côté de eux, ils vont vous changer. Et donc il dit clairement, n'essaye même pas de les évangéliser. N'essaye pas de prophétiser sur eux. N'essaye pas de leur verser l'huile. N'essaye pas de les emmener à l'église. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça veut dire qu'il y a un type de gangrène, de maladie, de réalité intérieure qui ne peuvent pas se changer de l'extérieur. Et de peur d'être contaminé, il y a un type d'individu que la Bible te recommande de fuir, dont la Bible te recommande de t'éloigner. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors que je préparais ces moments, je réfléchissais sur le texte que j'ai lu avec vous, qui est le texte de Genèse, le livre des commencements. Alors que nous sommes dans cette saison où nous croyons que Dieu a annoncé prophétiquement à chacun d'entre nous et collectivement à l'Église l'accélération, Je pense que le livre de commencement est un bon livre, surtout quand vous voulez commencer quelque chose ou recommencer quelque chose. Alors que Jésus parle aux disciples avec lesquels il marche, à un moment lors d'un échange, Jésus parle mariage. Et Jésus dit, il n'est pas permis à un homme. Non, en fait, on lui pose la question, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme, sauf pour cause d'adultère? Et Jésus, dérangé par la question, dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Ça veut dire qu'il y a effectivement des choses que le temps affecte. On n'a pas commencé comme ça, mais on se retrouve là. Et parfois, pour pouvoir redonner un souffle à une relation, à un engagement, à une certaine façon de vivre, il faut se rappeler pourquoi on a commencé. Quelle était la raison de cet engagement? Quelle était la raison de cette alliance? Pourquoi tu t'es converti? Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à venir à l'église? Pourquoi tu as commencé à jeûner, à prier, à payer ta dîme? Qu'est-ce qui soutient ce que tu fais? Quel est le commencement de cette œuvre? Plusieurs d'entre nous, notre commencement avec Dieu était un commencement rempli de joie. J'entends le psalmiste David qui parle à Dieu, psaume 51, et il dit « Restaure, rends-moi la joie de mon salut. » Ça veut dire qu'à un moment, même être sauvé ne te donne plus la joie. Parce que tu as oublié le commencement. Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il y a des choses qu'on a du mal à refaire parce qu'on a oublié le commencement. Alors donc le livre de Genèse et le livre de commencement, et alors que nous parlons de réussir en temps difficile, alors que je préparais ces moments, je me suis dit à Dieu, pourquoi finalement est-ce que les temps difficiles existent? Mon Seigneur, pourquoi est-ce que nous devons continuellement vivre au milieu de l'adversité? Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive à certains moments de vouloir dire stop, temps mort. Est-ce que je peux souffler un peu? Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui et je lui disais, si c'était possible d'exiler sur une planète juste pour quelque temps, pour souffler. Parce que quel que soit l'endroit où tu vas sur la terre, il semble qu'il y ait toujours des hommes qui provoquent les temps difficiles. Des gens dont c'est le travail de compliquer ta vie. Des gens qui ont la charge de te mettre des fardeaux dessus, d'enlever ta paix. Parfois ils sont en famille, parfois c'est parmi les amis, très souvent c'est dans notre lieu de travail. Collègues. Et donc en lisant le texte, sans qu'il y ait le péché dans le monde, ce qui, selon notre théologie, justifie la mort, parce que la mort est rentrée par le péché, je vois Dieu qui crée un jardin. Et Dieu crée un jardin et crée tout ce qui compose le jardin. Et Dieu fabrique de la poussière de la terre l'homme. L'homme que Dieu fabrique est parfait. Pas en connaissance, mais en potentiel. Les textes saints disent, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de lumière dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce que ce texte révèle, c'est que ce que Dieu donne est parfait. Mais si vous lisez bien les textes et si vous regardez à vos vies, ce que Dieu vous donne est parfait dans son potentiel, mais pas dans sa manifestation. C'est un produit brut que Dieu donne. Dieu ne donne pas de chaises, Dieu donne des arbres. Et c'est notre responsabilité à nous de fabriquer les chaises pour nous asseoir. Si tu n'as pas de chaise, ne dis pas que Dieu ne veut pas que tu t'asseyes. C'est que Dieu veut que tu travailles. Dieu place l'homme dans le jardin pour le cultiver. Est-ce que je peux vous dire ça? J'ouvre la parenthèse là pour dire que si c'est Dieu qui t'a donné ce projet, ce travail, cette relation, attends-toi à devoir la développer, la cultiver, la travailler. Dieu ne donne pas d'homme parfait, parfait en potentiel, mais pas en comportement. Dieu ne donne pas de femme parfaite. Dieu ne donne pas d'enfant parfait. Dieu ne donne pas de parents parfaits. Dieu ne donne pas d'église parfaite. Je bâtirai mon église. Ça veut dire que si Dieu bâtit l'église, c'est qu'il y a une marge de croissance, d'évolution dans l'église. Est-ce que vous êtes là? Le jardin est planté, Dieu place l'homme, Dieu dit cultive le jardin. Monseigneur, ça veut dire que Dieu a fait un jardin que l'homme peut cultiver. Quand Dieu met l'homme dans le jardin, il y a encore du travail. Et c'est d'ailleurs parce que l'homme arrive que la Bible nous dit que Dieu va se reposer. C'est pas qu'il n'y a plus rien à faire, mais c'est que Dieu, ayant fait l'homme et l'ayant placé dans le jardin, peut maintenant trouver du repos. Je veux bénir quelqu'un ce soir. Ça veut dire que tu ne peux pas te reposer tant que tu n'as pas créé de remplaçant. Il n'y a pas de vrai repos sans relève. Donc ce qui nous empêche de nous reposer, c'est que nous n'avons personne qui soit capable de continuer le travail qu'on a commencé. Vous m'entendez? Si tu veux le repos, ne va pas à Dubaï. Si tu veux le repos, ne va pas en Chine, ne va pas aux États-Unis. Si tu veux le repos, fabrique un homme. En tout cas, moi je parle mieux que tu ne dis amen ce soir. Si tu veux le repos, si tu veux pouvoir te reposer de tes œuvres, comme Dieu sait reposer des siennes, fabrique quelqu'un. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. I'm trying to build you guys. J'essaye de vous bâtir parce que je dois partir. Mais je ne peux pas partir. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Qui fait donc que tu n'arrives pas à te reposer parce que tu n'as fabriqué personne. Une mère peut se reposer parce qu'elle a engagé quelqu'un qui veille sur ses enfants. Il y a quelqu'un qui fait les devoirs avec les enfants. Quand tu n'es pas là, ça veut dire que ton absence ne doit pas empêcher la croissance des enfants. Mais ça n'arrive pas tant que tu n'as pas fabriqué quelqu'un. Pourquoi toi tu peux dormir? Parce que tu as embauché un gardien qui veille, parfois. Donc en fait, tu échanges, il échange son repos pour un salaire. Mais en vrai, ce salaire c'est toi, c'est ton travail. Il peut continuer à travailler là où toi tu vas te reposer. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui tu veux du repos, mais qui as-tu fabriqué? Tu veux passer au prochain niveau, mais qui as-tu fabriqué? Tu veux accélérer, mais qui as-tu fabriqué? Qui va te donner du repos? Qui va poursuivre ce que tu as commencé quand tu ne seras plus là? L'un des fléaux de notre continent, c'est que les gens veulent mourir au pouvoir. L'un des fléaux de notre continent, c'est qu'on ne fabrique personne. Je ne parle pas de vous, je parle des gens qui sont en autorité, je parle des gens qui règnent. Les gens qui règnent souvent, pas ici, ailleurs, les gens qui règnent souvent ont le sentiment qu'ils sont éternels, immortels. Et l'une des choses dont on parle très peu dans notre culture et qui est tabou, c'est la mort. Combien de nos parents ont prévu des testaments? Et même quand les testaments sont écrits, combien de nos familles respectent le testament? Des femmes. Bref, Dieu place l'homme dans le jardin et pour la première fois j'entends Dieu dire, après avoir dit, la Bible dit que Dieu vit que c'était bon, Dieu vit que c'était bon, Dieu vit que c'était bon. Et il y a un jour où la Bible dit Dieu va dire que c'est pas bon. Vous savez, c'est bizarre. Ça me bénit profondément parce que Dieu s'est auto-évalué et un jour, alors qu'il travaillait, il a dit, je peux faire mieux. Dieu a travaillé, Dieu a travaillé et puis un jour, il a évalué son travail et il a dit, c'est pas bon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous comprenez que Dieu a bossé? Après avoir travaillé, il n'y avait pas quelqu'un qui l'a empêché de travailler. Il n'y avait pas Satan. Dieu n'a pas d'adversaire. Mais après avoir travaillé, Dieu s'est auto-évalué et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il l'avait fait seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est là la femme arrive parce que Dieu a dit, c'est pas bon. Ça veut dire que normalement, la présence d'une femme, c'est de régler ce qui n'est pas bon. Quand une femme est présente quelque part, normalement, ce qui n'est pas bon doit être réglé. Mais il y a des femmes qui provoquent ce qui n'est pas bon. Ça veut dire que leur absence ne dérangeait pas. Mais dès qu'elle est venue, là maintenant, on dit c'est pas bon. Je ne parle pas de vous, je parle des autres femmes. Mesdames, si vous vous sentez attaqué, c'est que vous ne comprenez pas. Parce que l'homme seul, Dieu dit, c'est pas bon. C'est-à-dire que je ne peux même pas parler aux hommes de ça, parce que l'homme seul, c'est déjà pas bon. Maintenant, Dieu rajoute la femme. Et puis Dieu est encore obligé de dire, c'est pas bon. Alors que normalement, et je le dis, je prie que vous m'entendiez. La femme ne vient donc pas pour régler d'abord un problème de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui identifie le besoin, c'est Dieu. Ça veut dire qu'avant d'être l'aide de l'homme, elle est l'aide de Dieu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, que tu sois marié ou pas, tu as du travail. Que tu sois épouse ou pas, normalement tu dois répondre à un besoin divin. Tu ne peux pas te définir par un homme, tu dois te définir par Dieu, parce que ce n'est pas l'homme qui t'a créé, c'est Dieu. Bref, on est en train de parler du jardin, c'est Dieu qui fabrique. Puis mon Seigneur, pendant qu'on est en train de parler du jardin, j'entends Dieu dire, tous les arbres qui portent du fruit, c'est ta nourriture. Tu peux manger de tous les arbres qui portent du fruit, sauf d'un seul. Est-ce que je peux... Après, de toute façon, c'est un culte d'enseignement, donc je peux parler comme je veux. Provoque votre réflexion. Emmanuel est là, ici, présent. C'était pas pour que vous chantiez, c'était pour lui. Pourquoi est-ce que l'homme devait manger? Pourquoi est-ce que Dieu a créé quelqu'un qui a besoin de manger? Vous ne comprenez pas. Moi, je n'aime pas beaucoup manger. D'abord, je n'aime pas bouffer, ça c'est sûr. Mais ensuite, je n'aime pas beaucoup manger. Je connais plusieurs personnes qui vivent pour manger. C'est leur objectif de vie. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ne mangent pas, se fâchent. Peuvent pas jeûner. C'est-à-dire que vous pouvez les priver d'argent, priver de biens, mais priver de nourriture. Vous êtes leur ennemi numéro un, la personne à abattre. Et ces personnes, très souvent, ne mangent pas. Elles se goinfrent, bref. Il y a un texte qui parle de la gloutonnerie. Bref. Mais pourquoi est-ce que Dieu fabrique quelqu'un qui doit manger? Ça veut dire que tel que Dieu a fabriqué l'homme, sans le péché, l'homme doit manger. Donc ce n'est pas le péché qui introduit la nourriture. Créer, former, on nous a parlé de former et créer dimanche. Créer et former dimanche. Créer et former, l'homme doit manger. C'est ça, non? Pourquoi est-ce que l'homme doit manger? Parce que pour vivre, il doit manger. Oh, Seigneur, aide-moi. Écoutez-moi. Ça veut dire que Dieu seul ne suffit pas à faire vivre l'homme. C'est pas grave si vous ne dites pas amen, parce que c'est dans vos Bibles. Dieu seul, la présence de Dieu ne suffit pas pour que l'homme vive. Dieu lui-même dit, tu dois manger. Tu peux manger de tout sauf de ça, mais tu dois manger. Plus tard, Jésus se retrouve devant Satan. Satan et lui ont une conversation au sujet du pouvoir, au sujet du règne. Et Satan lui dit, si tu te prosternes et adores, je te donnerai de tout. Ça, c'est la troisième tentation. Mais la première, après 40 jours de jeûne, Satan lui dit, change ces pierres en pain, si tu es vraiment qui tu dis être. Change ces pierres en pain. Ce n'est pas une tentation si Jésus n'a pas faim. Ça veut dire que quoi qu'étant le Fils de Dieu, sans péché, Jésus a eu faim. Rempli du Saint-Esprit, plus tard revêtu de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, Jésus a eu faim. Jésus ne s'est pas marié, mais Jésus a mangé. Il semble que donc la nourriture fasse partie des besoins primaires de l'homme. Selon la pyramide de Maslow, si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Vous m'entendez? Ça veut dire que malgré la présence de Dieu, quelqu'un qui ne mange pas meurt. Quelqu'un était en jeûne pendant plusieurs jours, a jeûné, a cherché la face de Dieu. Au 50e jour, il est mort. Homme de Dieu. Dans le jeûne, Dieu est là. Mais ce qui l'a tué, ce n'est pas l'absence de Dieu. C'est l'absence de nourriture. Je ne sais pas si vous me comprenez même. Donc au milieu de tout ça, il y a le repas, il y a Dieu, il y a la femme. Le serpent était l'animal le plus rusé, l'animal des champs le plus rusé que l'Éternel Dieu a fait. Ça veut dire que le serpent ne rentre pas dans le jardin de manière illégale. Il y a un serpent dans tous les jardins que Dieu fait. Donc, ce n'est pas le diable qui a créé le serpent. C'est Dieu. Maintenant, ma question, c'est pourquoi est-ce que tu introduis un serpent dans mon jardin que tu m'as donné, dans lequel tu m'as placé, sachant que le serpent va me tenter? C'est important ce que je suis en train de dire, parce que accepte que partout où Dieu te place, il va introduire un serpent. C'est vrai dans ton lieu de travail, c'est vrai dans tes projets, c'est même vrai à l'église. S'il y a un jardin que Dieu a fabriqué, vous devez vous attendre à trouver un serpent. La Bible dit que le Saint-Esprit prit Jésus, l'emmena dans le désert pour être tenté par le diable. Donc Dieu a l'habitude de nous emmener voir Satan. Dieu a l'habitude de prendre ses fils et ses filles et de leur dire, allons voir le professeur, le maître, qu'on appelle Satan, parce qu'il y a une leçon que moi je ne peux pas t'apprendre, mais qu'il faut que le serpent t'apprenne. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il... Come on, pour qu'il... Bon, maintenant, vos Bibles disent que l'homme a été fabriqué à l'image de Dieu et qu'il a le potentiel de dominer. Mais écoutez-moi bien, c'est important ce que je vais vous dire. À quel moment est-ce que le pouvoir de dominer que l'homme possède se manifeste? Pas quand il donne un nom. Au moment où il donne le nom aux animaux, il n'y a aucun conflit, il n'y a aucun combat. Il n'y a pas d'adversité, parce que jusqu'à présent, les animaux reconnaissent sa voix. Il faut donc que Dieu introduise de l'adversité pour que le pouvoir de dominer de l'homme soit mis en application. Donc, au moment où il fallait manifester le pouvoir de domination, l'homme et la femme ont échoué. Tu ne peux pas dire que tu ressembles à Dieu sans adversité. La dernière fois qu'on a voulu lui faire un coup d'état, le tester, vérifier qu'il est Dieu, Satan a été précipité. On respecte le papa qu'on appelle Dieu parce qu'on sait que personne ne peut lui faire un coup d'état. Il n'a pas d'adversaire. Dites-moi pousse et je pousse un peu. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La Bible dit que le serpent ou le diable est l'adversaire de l'homme, l'accusateur des frères. Ça veut dire qu'en réalité, ton adversaire, ce n'est pas ton patron. Ton adversaire, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton véritable ennemi, c'est celui qui réclame le pouvoir de domination. Et c'est un serpent, c'est un esprit. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que au moment où moi je vois l'adversité, je vois le serpent être introduit et que j'entends le discours qu'il libère devant Ève, je me suis rendu compte que le serpent avait raison. C'est grave, mais c'est grave. Le serpent avait raison. Monseigneur François, j'entends le serpent dire à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Fausse information, il prêche le faux pour avoir le vrai. Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne manges de rien? La femme dit, non, Dieu a dit qu'on peut manger de tout, sauf de l'arbre du jardin qui est au milieu du jardin. Écoutez-moi bien les amis, ça doit vous déranger. Je sais que je n'ai pas le temps d'y aller parce que je suis à l'introduction. Ça doit vous déranger parce que au milieu du jardin, il n'y a pas qu'un arbre. Il y en a deux. Au milieu du jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie. Sauf que le serpent ne parle pas de l'arbre de la vie. Il détourne les regards de la femme de l'arbre de la vie et les oriente vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est ça sa méthode, te distraire, te détourner ton regard de ce qui est important. Détourner ton regard de ce à quoi tu as droit pour tourner ton regard vers ce à quoi tu n'as pas droit, ce auquel tu n'as pas droit. Il essaie de te focaliser sur ce à quoi Dieu te dit non pour que tu perdes de vue ce à quoi Dieu te dit oui. Il doit te frustrer, il doit t'emmener à croire que Dieu ne veut pas ton bien. Et le serpent a raison parce qu'il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous mangez? La femme dit, oh non, Dieu n'a pas dit ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? La femme dit, Dieu a dit le jour, il ne faut pas qu'on mange et qu'on touche. C'est faux. Aimant. Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas toucher. Dieu a dit, il ne faut pas manger. La femme a commencé avec, on ne doit pas manger. Elle a poussé, on ne doit pas toucher. Un jour, elle allait dire, on ne doit pas regarder. Parce que c'est ça la religion, c'est ça la loi. Ça vous fait croire qu'en réalité, le plus important, c'est ce que vous faites. Non, le plus important, c'est qui vous êtes. Et donc, le serpent touche à la question d'identité en disant, c'est faux, parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Il dit, en fait, que vous deviendrez comme des dieux. Mais sauf que la Bible dit en Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ça veut dire que Genèse 1:26, l'homme est déjà comme Dieu. Sauf que Genèse 3, le serpent lui dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez. Vous êtes là? Le serpent avait raison. Parce que le serpent dit en fait, vous n'êtes pas vraiment comme Dieu. Parce qu'il y a un savoir qui vous manque. Vous me regardez bizarrement, mais la Bible dit, c'est ça. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme? Comment? Vous serez comme? Connaissant quoi? D'accord. Prenons Genèse 3, 22. Tu peux changer. On va prier sous peu. J'essaye de vous enseigner. Lisons 1, 2, 3. L'Éternel Dieu dit. Voici l'homme est. C'est écrit, voici l'homme est devenu comme... Dieu vient d'avouer que le serpent avait raison. Ce n'est pas moi, c'est écrit dans vos Bibles. Voici l'homme est comme... Ça veut dire qu'avant, il n'était pas comme... Ok. Pourtant, je l'ai fait à mon image. Donc, ça veut dire que malgré le fait que tu ressembles à Dieu, tu peux ne pas être comme Dieu dans un domaine. Tu ressembles à Dieu, mais comme je vous ai dit, l'homme que Dieu fabrique est parfait en potentiel, mais a une marge de progression. Le serpent a donc dit à l'homme, le jour où vous mangerez, vous serez comme lui, comme des dieux. Sur quoi? La connaissance du bien et du mal. Mais Dieu découvre que l'homme a mangé du fruit de l'arbre qui lui était défendu, et Dieu lui-même fait un diagnostic. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons qu'il n'ait accès à l'arbre de la vie. Voici ce que je vous propose. J'ouvre la parenthèse, c'est une spéculation. Je vous propose que Dieu avait prévu tôt ou tard de donner accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je vous propose que l'homme n'était pas prêt. Quoique créé et formé, l'homme n'avait pas la maturité nécessaire pour pouvoir manger du fruit de cet arbre. Et donc, Satan lui a proposé un raccourci. Vous me regardez bizarrement. C'est exactement la même chose que nous trouvons en Matthieu. Satan ne propose pas à Jésus ce que Dieu n'a pas prévu lui donner. Vous allez m'entendre. Ça veut dire que le diable n'a pas la possibilité de vous donner ce qui n'est pas inscrit dans votre destinée. Le diable ne peut pas vous donner ce que Dieu n'a pas prévu vous donner.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.